Horaire des marées à Saint-Malo. 7 juillet. Marée haute, 0h45. Marée basse, 7h38. Marée haute, 13h19. Marée basse, 20h03. Prologue. 7 juillet, Saint-Malo, annexe Beauregard de la pension Le Repère des Corsaires, 10h25. De la quiétude du matin, embaumée de café et de tartines, au drame qui l'attendait derrière la porte, il n'y avait guère qu'un pas que Fanny franchit après deux nouveaux toc-toc appuyés. Depuis plus d'une minute déjà, elle tentait d'obtenir une réponse de son pensionnaire paresseux, jusque-là sourd à ses appels. « Monsieur le Toïc, ce n'est pas pour vous déranger, mais j'arrête le service du petit-déjeuner dans moins de 5 minutes. » L'heure, c'était l'heure, même sur un lieu de vacances. Et depuis un an qu'elle gérait seule l'annexe Beauregard du Repère des Corsaires, Fanny Horvet ne faisait d'exception pour aucun de ses clients. C'est à cette condition expresse, la rigueur, que Guy le Divellec avait accordé autant de responsabilité et d'autonomie à sa jeune employée, tout juste âgée de 23 ans. Depuis lors, celle-ci s'employait chaque jour à honorer la confiance ainsi donnée, ne comptant ni son temps, ni son énergie pour entretenir ce petit manoir champêtre et ses 3 chambres d'hôtes. Une au rez-de-chaussée, voisine de sa propre piole, et 2 à l'étage. Grand jardin, piscine extérieure chauffée, cuisine en libre service, les remparts de Saint-Malo à moins de 15 minutes, le charme bucolique des Malouinières en prime, précisait la page web promotionnelle qu'elle avait bricolée de ses propres mains. « Monsieur le Toïc, tout va bien ?» Des gros dormeurs, elle en avait connu plus d'un. La tranquillité de la campagne mêlée à l'air marin exerçait sur les voyageurs un pouvoir lénifiant des plus réparateurs. Il n'était pas rare de ne voir émerger certains que longtemps après l'heure du déjeuner, sautant non pas un, mais 2 repas. « Ça, c'est la magie du clos poulet !» Entre Saint-Malo et Cancale, le meilleur de la terre et de la mer réunis, vantait-elle les charmes de la région à sa clientèle. Mais le premier sonneur du Briac Braise Bagad s'était montré on ne peut plus clair.
« Si vous ne me voyez pas au petit-déj, n'hésitez pas à venir me secouer. On doit commencer notre dernière répétition avant midi. »«
Attention, je vais rentrer !» prévint-elle, la main sur la poignée.
« J'espère que vous êtes présentable !»
Vu la nature grivoise du sexagénaire, la veille au soir, il l'avait complimentée de manière tout sauf hashtag MeToo sur sa beauté de déesse black, avant de préciser qu'il serait sans femme ni enfant durant tout son séjour sur place. La précaution oratoire s'imposait. Une sculpture moderne et surréaliste née d'un esprit malade. C'est l'impression que lui fit la scène dès qu'elle eut poussé la porte, la laissant d'abord sans voix. Son absence de cri la surprit elle-même. Presque fascinée, la tête penchée sur le côté, elle apprécia la posture du corps et ses étonnants attributs comme un amateur d'art jauge la dernière facétie d'un Jeff Koons ou d'un Damien Hirst. Plus intriguée par la prouesse technique du performeur que réellement émue. Ce que Fanny avait à présent sous les yeux entrait selon elle dans cette catégorie d'œuvres si particulière. Nue de la tête aux pieds, assis sur une chaise et les mains liées dans le dos, Paul le Toïc affichait une carnation bleutée. Ses yeux exorbités semblaient chercher le salut dans les poutres apparentes du plafond. Et son immobilité totale finissait de dissiper les doutes sur son état. Mais le plus étonnant, ce qui attrapait le regard et muait ce tableau somme toute assez classique en une composition vraiment originale, quoique macabre, était ce qui dépassait de la bouche du mort. Une cornemuse entière, la poche d'air et ses 4 tuyaux reposant sur la poitrine velue et grisonnante. Sidérante fusion entre le musicien et son instrument. En effet, le chalumeau mélodique, cette longue flûte noire qui concluait le réservoir en cuir, disparaissait pour sa part dans la gorge de Paul le Toïc, au moins sur la moitié de sa longueur. On eût dit l'un de ces gobeurs de sabre des cabarets d'autrefois, les fringues ringardant moins, le côté donjon SM en plus. Les lèvres ourlées sur le conduit en bois sombre laissaient entrevoir des dents ébréchées par une introduction qu'on ne pouvait imaginer que brutale. Si c'était un spectacle pour épater la galerie, il avait plutôt réussi son coup. Mais à quel prix? Pourtant, tout autour, la pièce baignée d'un soleil franc respirait le calme et la sérénité. Pas de traces de lutte particulière, rien de cassé ni même de renversé sur le parquet luisant de cire. La petite valise à roulettes, rangée dans un angle, demeurait close, indiquant a priori que le pensionnaire n'y avait pas touché depuis son arrivée. De fait, aucun objet ne traînait, excepté une petite bouteille d'eau de source fournie par la maison et qui gisait sur la table de nuit encore scellée. Détail étrange, les vêtements de la victime reposaient sur le petit bureau collé à l'unique fenêtre, bien plié. Une fois de plus, Fanny eut le sentiment que tout dans cette chambre avait fait l'objet d'une savante mise en scène. Que rien n'y cédait au tumulte, à la précipitation ou à l'improvisation. Ce contraste entre ordre et chaos la dérangeait presque plus que l'aspect morbide du dispositif. Ses pensées chamboulées furent certes traversées d'un « Merde, qu'est-ce que va dire Guy de tout ça ?» avant qu'elle ne se ressaisisse et ne dégaine son portable d'un geste réflexe. D'une pression répétée du pouce, elle immortalisa la scène en trois clichés, puis quitta enfin ce qu'elle se résolut à désigner par son nom, aussi douloureux fut-il de l'admettre, une scène de crime. Depuis quand n'y avait-il plus eu de meurtre aussi dingue à Saint-Malo? Avant ou après son adoption par les Orvets? Pas depuis Enora, ça, elle en était certaine. Non, pas depuis son installation à l'annexe et ses vrais débuts avec Enora. Chapitre 1. 7 juillet, Saint-Malo, manoir des Korrigans, chambre de Maggie, 3 heures plus tôt.
« Well done, Ron !»
s'écria Maggie Corrigan, 69 ans et 364 jours au compteur. Se disant, elle s'étira hors du drap blanc et révéla cette poitrine encore alerte qui adressait un pied de nez au temps qui passe et à la gravité. Le carré grisonnant de sa chevelure flottait dans les rayons matinaux, illuminant un sourire repu. L'homme, dont la tête disparaissait entre ses cuisses l'instant d'avant, se redressa. Puis il la considéra avec plus de surprise que d'envie. Il n'y avait pourtant là rien que de désirable à ses yeux. Sa propre femme affichait certes 10 ans de moins, mais aussi 10 tonnes de plus. Le jeune septuagénaire mesurait sa chance de partager de temps à autre la couche d'une telle créature.
« Rassure-moi, tu te souviens quand même que je ne m'appelle pas Ron ?»« Oh, ça va, la ramène pas !»
reprit-elle en bon français teinté d'accent anglais.
« C'était pas non plus si well done que ça !»« Charmant, c'est pas ce que tu disais, il y a... »« Allez, Jacques, chou ! Fous-moi le camp avant que tout le monde se lève !»
Déjà, elle était debout, silhouette impudique dans le cadre de la fenêtre, tellement femme et si peu vieille dame. Le visiteur s'exécuta en ronchonnant pour la forme, un œil rivé au fessier de sa maîtresse. Après tout, voilà plusieurs mois qu'il acceptait de bonne grâce le rôle de l'amant du placard. Il n'en était plus à un départ à l'aube près. Il enfila alors ses vêtements de la veille comme on se glisserait dans la peau de sa dernière mue. Inconfortable et obsolète. L'alliance qu'il passa pour finir à l'annulaire gauche lui fit l'effet d'une chaîne.
« Tu sais qu'il ne tient qu'à toi que je ne la remette plus jamais ?»
dit-il en secouant sa main de manière ostensible.
« Tu me prends pour qui ? Le monde pitié ?»«
Piété. C'est le monde piété, pas de pitié. »«
Bordel de fuck ! »
fit-elle mine de s'insurger.
« Tu ne vas pas me donner des leçons de français, en plus !»
Résigné, il n'insista pas et préféra rester sur la bonne impression de leur récente ferveur. Il lança, presque enjoué,
« Tu n'oublies pas, hein ? J'ai besoin de toi demain matin à 8 heures dans la cour. »
À ces mots, il désigna l'espace au-delà des carreaux, cet enclos pavé séparant la somptueuse malouinière du XVIe siècle transformée en maison d'hôte et les dépendances où logeait depuis toujours la famille Corrigan.
« Je n'oublie pas, je n'oublie pas !»
soupira-t-elle en s'habillant à son tour. Marinière bleu et blanc, pantalon à pinces assortis, chic et sobre à la fois. À l'image de cette chambre à la décoration spartiate.
« Le meilleur des styles, c'est la qualité !»
aimait-elle dire, pour justifier ses goûts pour le moins austères.